Le point de Max.
Le point de Max, l'actu du jour avec une touche de la bouche.
10h40, ben pile, dans le point de Max à Boulevard 102-1-88-971-1021, le numéro pour me rejoindre en studio par texto. Vous pouvez vous joindre à nous sur le Twitch, twitch.tv/blvd/en-bas-fm. Nous écoutez via la web radio, le blvd.fm, l'application mobile Boulevard 102-1. Puis sinon, ben, vous pouvez gentiment demander à votre haut-parleur intelligent à la maison aussi de vous brancher à Boulevard 102-1 puis nous écouter pendant que vous êtes en télétravail peut-être ou que vous faites le ménage cet après-midi. Ou une petite brassée de lavage. On a beaucoup parlé ce matin avec Marceau du Parti québécois qui présente l'offensive que le parti mènerait s'il atteignait le pouvoir pour diminuer les coûts de construction au Québec. Il y a quelques mesures qui sont présentées là-dedans. Certaines, on a l'impression qu'ils restent qui vont pas énormément en profondeur, mais on va essayer d'y aller un petit peu plus avec Catherine Gentilcoeur, qui est porte-parole du Parti québécois en matière d'habitation et députée de Terrebonne. Madame Gentilcoeur, bonjour.
Bonjour.
Comme je le disais, vous présentez ce matin l'offensive que mènerait le PQ pour diminuer les coûts de construction au Québec. Ça, j'ai l'impression, personne ne peut évidemment être contre ça. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que le mot syndicat n'est pas dans le communiqué. Vous pensez vraiment pouvoir révolutionner le monde de la construction sans vous attaquer aux syndicats?
Écoutez, on parle pas de révolution ici, je pense pas de révolutionner, mais quand on constate qu'une école secondaire coûte en moyenne 175 millions de dollars à construire au Québec, puis que juste de l'autre côté, en Ontario, il en coûte environ 75 millions de dollars, je pense que c'est un problème auquel il faut s'attaquer. C'est ce qu'on pense au Parti québécois. Ces 10 mesures-là qu'on propose aujourd'hui, c'est les bases de notre plan. C'est une base aussi de réflexion, parce qu'évidemment qu'il y aura d'autres consultations suite à ça, puis on est ouvert à bonifier ou à adapter ce plan-là. Mais on fait trois constats. Premièrement, il y a un grave manque de concurrence en ce qui a trait aux appels d'offres pour la construction des infrastructures au gouvernement. Quand la CAQ est arrivée au pouvoir, il y avait environ 4,7 soumissionnaires en moyenne pour chacun des appels d'offres, et déjà à l'époque, c'était considéré comme étant trop peu. Et là, maintenant, quelques années plus tard, presque 8 ans plus tard, on est à 2,6 soumissionnaires seulement. Donc, il faut absolument voir à mettre en place des mesures qui vont encourager la concurrence. Ensuite de ça, trop de bureaucratie, trop d'étapes, trop de paperasse, ça c'est clair et net, on nous le dit tout à cabit dans le milieu. On nous dit que c'est trop lourd, qu'il y a des délais, et puis que ça fait en sorte que ça rend très compliqué le fait d'appliquer pour les appels d'offres ou le fait de faire avancer les projets. Puis finalement, troisième raison, puis on pense que c'est la raison qui est la plus majeure, c'est le fait que le gouvernement en ce moment n'est pas considéré comme étant un donneur d'ouvrage fiable. Il y a tellement d'avance-recul, il y a tellement de « on y va, on n'y va plus », qu'on pense au troisième lien, qu'on pense à HMR, qu'on pense au tramway, Rennes de l'Est. Je veux dire, ça a été tellement d'avance-recul que là, c'est pas encourageant pour les entreprises de soumissionner, parce qu'ils savent qu'ils vont perdre des dizaines de millions de dollars à déposer leur soumission et attendre dans les délais. Donc, les mesures qu'on propose ici, c'est des mesures qui vont nous permettre d'agir là-dessus. Il y a certaines mesures qui sont facilement opérationnalisables, d'ailleurs, qu'on peut mettre en place assez facilement. Donc, c'est ce qu'on propose aujourd'hui.
Je pense qu'on peut pas être en désaccord avec ce que vous présentez, puis on comprend que c'est un début, mais est-ce que vous êtes prête, Mme Gentilcoeur, à dire qu'il va aussi falloir peut-être regarder ce qui se passe du côté des syndicats, puis que peut-être qu'une partie du problème des coûts élevés en construction au Québec, c'est peut-être parce que les syndicats prennent pas mal de place?
Écoutez, il va falloir le regarder comme d'autres éléments également, puis on verra dans les consultations qu'on va faire dans les prochaines semaines. Mais nous, dans les consultations qu'on a faites dernièrement, puis on n'a pas fait des consultations, on a fait des consultations vraiment très larges auprès de plusieurs organisations, puis ce qu'on constate, c'est vraiment le problème de la concurrence sur lequel il faut s'attarder. Il y a l'augmentation des prix aussi post-pandémie, évidemment, mais ce qu'on voit, c'est que c'est pas le coup du bois là, qui fait en sorte que les coûts explosent dans l'octroi. Je pense qu'on peut agir également sur l'harmonisation du code du bâtiment. En ce moment, chacun des projets sont uniques. Il faut être en mesure d'avoir des modèles d'écoles, par exemple, ou d'hôpitaux qu'on va pouvoir reproduire par la suite pour avoir des économies d'échelle, pour pouvoir économiser puis avoir déjà des projets qui fonctionnent. Il faut aussi que l'industrie soit davantage impliquée dans le développement de ces projets-là, qui puisse, par exemple, proposer des contre-offres. Quand il y a un appel d'offres qui est fait, ben voici ce que moi je propose pour que les coûts soient moins élevé parce que eux connaissent la réalité du terrain, ils savent c'est quoi les limites dans lesquelles ils peuvent naviguer, puis proposer justement des façons de faire qui vont être moins coûteuses, moins onéreuses pour le citoyen. Je pense que tout le monde à la maison se dit que la CAQ l'a échappé là, dans les dernières années. Là, quand on passe à 4,7 soumissionnaires, à 2,6 soumissionnaires, quand on voit que le prix d'une infrastructure est plus que le double au Québec qu'ailleurs, ben je pense qu'il y a des mesures qui peuvent être mises en place. Évidemment, ça sera fait avec l'ensemble des intervenants, mais je pense qu'il y a des choses là-dedans qui peuvent vraiment, sur lesquelles on peut se pencher rapidement puis qui pourraient avoir un impact assez considérable dans l'immédiat.
Enfin, je comprends qu'on ne veut pas vraiment viser les syndicats. Maintenant, pour ce qui est de la possible, appelons ça collusion, corruption, des entreprises qui peut-être prennent beaucoup de place puis peuvent peut-être maintenir leur prix un petit peu plus haut que ce que ça pourrait être. Ça, est-ce que le PQ aurait des solutions concrètes à ça, si ça existe? Là, je ne sais pas si on est prêt à admettre que ça existe, des entreprises qui peut-être au Québec savent un peu comment ça peut fonctionner puis s'en mettre plein les poches grâce à ça.
Bien, une chose est sûre, ce qu'on sait, c'est que ça a déjà existé. Là, en ce moment, moi, j'ai aucune preuve devant moi. Il n'y a rien qui m'indique que ça existe encore. Mais une chose est certaine, il va falloir aller au bout de ça. Donc, nous, quand on lance là cette première offensive-là avec nos 10 mesures, c'est justement pour ouvrir la discussion puis s'assurer d'aller au fond des choses. Donc, un gouvernement du Parti québécois irait au fond des choses, s'assurerait de voir est-ce qu'il y a encore de la collusion, de la corruption dans le domaine de la construction, puis agir là-dessus. Donc, quelles seront les solutions? Ça sera à voir. Mais une chose est certaine, il faut aller au bout de ça. On peut pas se permettre de voir nos infrastructures doubler, tripler de prix d'année en année sans rien faire. Donc, on va aller au fond de cette question-là, assurément, dans les prochains mois.
Quand on parle d'alléger le fardeau réglementaire, accélérer les projets, ça, je pense que ce point-là, encore une fois, comme bien des points que vous mentionnez aujourd'hui, la population voit ça puis se dit « oui, on y va ». Dans le concret, qu'est-ce qu'on pourrait faire tomber là, rapidement comme barrière? Là, en arrivant au pouvoir, mettons que le Parti québécois arrive à prendre le pouvoir dans quelques mois, là, ça peut-tu être rapide?
Ben oui, en ce moment, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a plusieurs étapes qui, en ce moment, sont nécessaires à l'aboutissement d'un projet, puis qui pourraient être grandement simplifiées ou supprimées. Donc, on ferait le ménage là-dedans, comme on ferait le ménage dans l'ensemble de la fonction publique, là, pour vraiment alléger les processus. Par exemple, proposer des formulaires qui seraient pré-remplis aux entrepreneurs pour accélérer le renouvellement des demandes puis des déclarations auprès de la CNSST, par exemple, la CCQ, la RBQ, Revenu Québec. Donc, il y a vraiment des choses que rapidement on peut mettre en place, à notre avis, puis qui déjà aiderait grandement les entreprises au niveau de l'efficacité.
Je vais poser une question qu'on se pose dans bien des domaines. Si c'est si simple que ça, pourquoi il n'y a pas un gouvernement qui s'est attaqué à ça dans les dernières années?
Bien, c'est une excellente question, mais tu sais, je soulèverais qu'on n'en a même pas discuté. Puis nous, ce qu'on s'est fait dire par différents intervenants, c'est que la CAQ a ouvert les valves puis a dit « allez-y dépenser ». Quand on regarde une maison des aînés qui coûte 1,2 million en moyenne par porte, par unité, on se dit, il y a clairement eu du laxisme, là. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Quand on regarde le nombre de logements qu'on a besoin de créer pour arriver à héberger nos aînés dans les prochaines années, puis qu'on se permette au gouvernement de la CAQ de payer 1,2 million de la porte, faites le calcul, on n'y arrivera jamais, là. Donc, il y a eu du laxisme. Je pense qu'il faut ramener cette conversation-là. Il y a clairement manqué, je pense, de volonté politique. Ça prend de la volonté politique pour aller au fond des choses puis pour proposer des mesures. C'est ce que nous, on s'engage à faire.
Catherine Gentil-Corr, porte-parole du PQ en matière d'habitation, députée de Terrebonne. Un autre sujet que je voulais aborder avec vous ce matin, les audiences concernant la loi sur la laïcité de l'État qui s'ouvrait hier à la Cour suprême du Canada. Ça va se poursuivre jusqu'à jeudi. Mais on s'entend, c'est pas vendredi matin qu'on va avoir un jugement. Et hier, Paul Saint-Pierre Plamondon, votre chef, qui était du côté de l'émission Le Bilan à LCN, a mentionné qu'il aimerait bien ça avoir un jugement, une décision avant les prochaines élections provinciales. Est-ce que vous y croyez?
Écoutez, c'est sûr qu'on aimerait ça. Dans un monde idéal, les électeurs pourraient se prononcer en toute connaissance de cause. Après, on connaît les délais, puis on sait comment ça se passe. Puis on est au courant aussi qu'on n'est pas en mesure d'exiger quoi que ce soit. Donc, c'est sûr que pour nous, pour le respect de la démocratie, puis pour s'assurer de faire un choix éclairé, se mettant à la place des électeurs, c'est ce qu'on souhaiterait, évidemment. Puis je pense que c'est ce qui serait souhaité aussi par une grande partie de la population. Mais après, les délais étant ce qu'ils sont, puis la justice étant ce qu'elle est, ça sera à voir.
Mais votre chef va quand même un peu plus loin que ça, en disant qu'il n'est pas naïf, puis il dit croire que le timing des décisions a un élément politique. Un peu comme si c'était peut-être possiblement une possibilité que ça ferait l'affaire de certaines personnes que la décision tombe pas avant puis qu'on pourrait peut-être la retarder. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai compris les propos de votre chef. Êtes-vous prête à aller là?
Ben écoutez, mon chef l'a dit, donc évidemment que c'est une question qui se pose. Je veux dire, on l'a vu, c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de timing-là opérer dans ce genre de positionnement politique-là. Donc, je pense que effectivement, c'est une possibilité. Après, nous, ce qu'on souhaite, c'est que les électeurs puissent être éclairés, puissent voter de manière éclairée, puissent avoir tous les éléments en main au moment de passer aux urnes. Puis, je pense que c'est ça qui prime en ce moment dans notre désir de recevoir un jugement le plus rapidement possible.
Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a mentionné dans cette entrevue-là aussi que ces juges-là, ben, sont pas élus, sont en grande majorité imbriqués dans l'idéologie dominante du Parti libéral du Canada, et ça devrait nous faire réfléchir. Réfléchir à quoi?
Bien, c'est sûr qu'on n'est pas dupes. C'est une nouvelle tentative, clairement, de nous imposer une constitution qui nous est étrangère. On essaye de nous enfoncer ça un peu dans le fond de la gorge. Donc on le voit aller, on le voit aller. Puis tu sais, les gens qui défendent ça, je veux dire, la laïcité là, au Québec, là, ça devrait être acquis. On en a tellement parlé dans les 15 dernières années. On a eu des débats de société à ce sujet-là. Et de manière législative, ici au Parlement du Québec, on a pris des décisions en fonction de ça. Et là, il y a des gens qui essaient de justement se substituer aux décisions qu'on a prises en toute légitimité ici au Québec. Puis nous, ben, les constituants du Québec pourront toujours compter sur le Parti québécois pour défendre la laïcité, puis pour défendre le droit de l'Assemblée nationale à légiférer là, sur la laïcité ou toute autre facette de notre société. Donc, clairement, il y a des gens en ce moment qui essaient de nous retirer ce pouvoir-là, qui essaient de nous imposer une constitution à laquelle on n'a jamais adhéré. Puis nous, on va toujours être là pour défendre les intérêts du Québec dans ces questions-là.
D'ailleurs, il y a des chiffres intéressants ce matin dans un sondage commandé par l'Association des garderies privées du Québec. Là. C'est, mm-hmm. C'est cité dans le Journal de Québec où, moi, ma réaction, ça a été de me dire, bon, ben, je pense que les Québécois ont la laïcité un peu à géométrie variable là, quand ça vient te toucher directement, puis ça pourrait peut-être enlever ton kit de la garderie puis te mettre dans le trouble. La laïcité, c'est un peu moins important pour toi. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez vu aussi? Là? Puis pour rappeler aux gens peut-être qu'ils l'ont manqué, mais 68% des répondants qui se disent à la 62% qui jugent acceptable qu'un membre du personnel éducateur porte un signe religieux visible, mais à visage découvert, alors que normalement, c'est pas cette proportion-là qui est contre la laïcité.
Je pense qu'il faut se mettre à la place des parents ici quand on est dans un contexte de pénurie de places en garderie, en CPE, et qu'on donne, pour ainsi dire, le choix. Dans le fond, ce qu'on dit aux parents, c'est là, si vous avez à choisir entre votre place en CPE puis la laïcité, qu'est-ce que vous allez choisir? C'est quand même mettre les parents dans une drôle de position. Donc, nous, vous le savez, on défend la laïcité. On est une des sociétés au monde où le vivre ensemble est le plus positif, le plus constructif pour la société. Donc, on croit évidemment que c'est dans l'intérêt de l'enfant puis de sa liberté de conscience de pas être exposé aux croyances religieuses des employés des services de garde. Ce qu'on nous dit par ailleurs, tu sais, bon, dans les écoles, dans les services de garde des écoles, il y a déjà là les gens sont déjà soumis, ceux qui avaient signé leur contrat de travail en fait après le dépôt de la loi sur la laïcité, se sont vus dans l'obligation de retirer leur signe religieux. Et ce qu'on nous dit sur le terrain, c'est que la plupart d'entre eux le font sans aucun problème. Ils arrivent au travail avec leur signe religieux, l'enlèvent pour travailler avec les enfants, le remettre ensuite. Donc, je pense que c'est important aussi de voir que organiquement, sur le terrain, ça semble plutôt bien s'organiser. Mais c'est sûr et certain que quand on demande aux parents de choisir entre une place en garderie ou de choisir la laïcité, c'est de les mettre dans une drôle de position. Donc, nous, on tient notre position. Il y a eu de nombreux sondages qui ont été faits auprès de la population sur la laïcité. On croit à la laïcité au Québec, puis nous, on va continuer de la défendre jusqu'au bout.
Catherine Gentil-Corr, porte-parole du Parti québécois en matière d'habitation et députée de Terrebonne. Merci beaucoup pour votre temps ce matin.
Merci à vous.
Bye-bye. Au retour de la pause, Audrey Pinchot s'en vient faire son tour pour l'Open Mic et ce sera aussi le dévoilement de la programmation du festival Cigale qui se tient au mois d'août à Québec. Fait qu'on va faire un Open Mic un petit peu plus court aujourd'hui et on va écouter de la musique un peu. Il fait beau soleil, il fait pas 20, 25, 30 degrés comme il va faire au mois d'août à Baie de Beauport pour Cigale. Mais on va écouter de la musique puis on va faire semblant qu'il fait chaud. Fait que dans les prochaines minutes, l'Open Mic avec Audrey Pinchot et presque en primeur, la programmation du festival Cigale. Vous écoutez le Point de Max, 10h55.